I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Entre constat et état d'urgence, entre grands combats et petits gestes du quotidien, notre chère planète, c'est le podcast Environnement du Dauphiné Libéré.
Connu pour ses vidéos et ses slogans chocs qui font réagir le grand public sur le traitement infligé aux animaux, L214 a dressé un classement des villes de plus de 50 000 habitants qui œuvrent pour le bien-être animal. À l'occasion de la Journée mondiale des animaux le 4 octobre, l'association lance son classement évolutif « Une ville pour les animaux » et met Grenoble en tête. Les explications d'Erwin Goeller, salarié à L214, au micro de Saléra Benarbia.
Le classement qu'on a sorti est un état des lieux de l'action des villes pour la condition animale. Donc c'est toutes les villes de plus de 50 000 habitants confondues. C'est pas forcément celles qui agissent. Justement, on a voulu mettre le focus sur toutes ces villes-là pour les encourager, les pousser à agir sur des critères qui sont des indicateurs qui sont tirés de notre charte « Une ville pour les animaux » qui avait été publiée en 2020 pour les élections municipales. Et là, on a eu pour ambition de voir depuis 2020 ce qui avait été fait pour les animaux par les villes. Et les critères, donc, c'est des critères qui sont propres à L214. On n'est pas exhaustif sur toute la condition animale, mais quand même, on a plusieurs thématiques qui sont abordées, comme la végétalisation de l'alimentation pour réduire le nombre d'animaux exploités et tués pour la restauration collective et l'alimentation. L'intégration de critères relatifs au bien-être animal dans la commande publique, car c'est possible d'utiliser le bien-être animal comme un critère d'attribution des marchés publics, qui permet donc d'avoir des ambitions et des exigences relatives à ce sujet, en excluant par exemple les produits qui sont issus de l'élevage intensif. On note aussi tout ce qui se fait au niveau des animaux liminaires. Alors pas tout, mais avec des indicateurs marquants. Donc quand on dit animaux liminaires, c'est les animaux qui vivent dans les villes auprès des humains, mais qui ne sont pas des animaux de compagnie, qui ne sont pas directement dépendants des humains. Et donc de voir si les villes écartent les moyens létaux pour gérer les populations de pigeons, de cygnes, tous les animaux qu'on peut croiser dans les villes. Après, en autre critère, on peut également avoir la gestion des populations de chats errants. Est-ce que la ville se met en partenariat avec des associations de protection animale pour faire stériliser les chats par des conventions? Alors Grenoble, ce qui fait qu'elle coche beaucoup de cases, c'est que très rapidement, la municipalité s'est penchée sur la question du critère bien-être animal dans la commande publique. Et c'est... une grosse partie de notre notation est basée là-dessus. Donc forcément, on voulait axer le regard sur ce sujet-là, puisque c'est quelque chose qui n'est pas vraiment dans les pratiques habituelles. Les services commande publique, d'une manière générale, ont pu découvrir cette possibilité de critère bien-être animal que depuis quelques années. Et du coup, on a peu d'exemples de villes qui l'ont fait. Donc on a vraiment voulu axer là-dessus. Et Grenoble a pris le sujet en main, notamment par Sandra Krief, qui est élue déléguée à la condition animale. Et ça a permis de les mettre en tête de cet état des lieux. Et notamment sur la végétalisation, ils font des efforts sur la végétalisation de leur restauration collective pour les cantines scolaires, avec une alternative végétarienne quotidienne, mais aussi pour les agents municipaux, donc dans les cantines municipales pour les agents municipaux. Il y a aussi une alternative quotidienne, et donc ça c'est quelque chose qui n'est pas généralisé au niveau de la France. Il y a ça, et il y a aussi une fréquence de repas végétariens qui est plus élevée que l'obligation légale de proposer une journée végétarienne par semaine. Ils en sont à 6 par mois, donc à 1,5 jours par semaine en moyenne. Mais à côté, par exemple, leurs voisins Lyon, qui ont aussi beaucoup végétalisé leur restauration collective avec un menu 100% végétarien, tout comme à Grenoble, donc une alternative végétarienne quotidienne, et deux journées, ils en sont à deux, dans les cantines scolaires, de journées végétariennes.
L214 s'est essentiellement fait connaître auprès du grand public par ses vidéos chocs, ces images vraiment qui choquent et qui touchent à l'empathie en fait du grand public. Est-ce que depuis ces campagnes, depuis vos enquêtes que vous menez un peu partout en France et pour tous les animaux, est-ce que vous constatez des améliorations vis-à-vis du traitement que l'on fait pour tous les animaux?
Effectivement, L214 est spécialisé sur les questions des animaux dits d'élevage, mais de fait, on peut constater une amélioration sur la prise en compte des animaux d'une manière générale, des animaux de compagnie. Par contre, en ce qui concerne les animaux dits d'élevage, auprès du grand public, il y a une prise de conscience. Depuis la naissance de l'association en 2008, on ne peut pas nier qu'il y a une meilleure prise en considération de ces questions-là, notamment par la végétalisation de l'alimentation, des gens qui tournent le dos à l'alimentation animale, enfin carnée, pour des raisons éthiques, pour ne pas exploiter des animaux juste pour le plaisir gustatif, puisqu'on sait aujourd'hui qu'on peut vivre en bonne santé en ayant une alimentation 100% végétale. Mais il y a quand même des blocages dans les faits. On a toujours de l'élevage intensif en France, donc au niveau réglementaire, justement, ça n'avance pas aussi vite que la société sur ce sujet. Plus de 8 personnes sur 10 sont contre l'élevage intensif, et pourtant, 8 animaux sur 10 élevés en France sont élevés en élevage intensif, justement. Donc il y a un gros paradoxe. Et quand on parle d'élevage intensif, c'est des élevages où les animaux ne voient pas la lumière du jour de toute leur courte existence. Donc on voit qu'il y a des blocages. C'est pour ça qu'on veut saisir des leviers comme ceux qu'ont les villes sur la restauration collective. Parce que si on attend juste des actions des citoyens, qui sont de plus en plus nombreux à se tourner vers l'alimentation végétale, les choses avanceront beaucoup plus lentement que si les pouvoirs publics y mettent du leur aussi. Et la végétalisation de la restauration collective est un des plus gros leviers pour ça, pour épargner des milliers d'animaux. Quand on parle de Grenoble, par exemple, c'est 10 000 repas qui sont servis chaque jour dans les cantines scolaires. Donc vous imaginez bien qu'à l'échelle de l'année, c'est des milliers et des milliers d'animaux qui sont exploités pour un repas, enfin pour des repas dans les cantines scolaires. Donc en végétalisant, on réduit l'impact sur la vie des animaux d'élevage, et on fait reculer en fait la nécessité d'avoir des élevages intensifs pour soutenir une alimentation carnée qui n'a plus lieu d'être.
L'objectif d'L214, c'est de réduire à zéro la consommation animale, ou c'est de faire en sorte que l'animal il soit plus maltraité et éviter l'élevage intensif?
Ben, en effet, L214 a une association abolitionniste. Donc quand on dit abolitionniste, c'est-à-dire qu'on estime que les animaux étant des êtres sensibles, et par les connaissances scientifiques, sachant qu'on n'a pas besoin de se nourrir de leur corps pour vivre en bonne santé, il n'y a pas lieu d'être, il n'y a pas de raison de continuer à les exploiter pour notre alimentation, pour notre plaisir alimentaire. Donc ça, c'est la position historique et philosophique de l'association. Et puis après, dans ce qu'on encourage, il y a le pragmatisme. C'est pour ça qu'au niveau des villes, on ne demande pas aux villes de passer les menus 100% végétaliens 4 jours sur 4 ou 5 jours sur 5 dans la restauration collective, mais de permettre déjà à ceux qui veulent tourner le dos à la viande d'avoir une alternative quotidienne végétarienne tous les jours. C'est quand même un minimum de permettre aux gens de pouvoir, enfin aux enfants, de pouvoir ne pas manger d'animaux. Et donc on reste pragmatique, et effectivement il y a des urgences qui prennent la priorité sur la question abolitionniste, notamment l'élevage intensif, comme vous l'avez dit, qui est vraiment ce qu'il y a de pire pour les animaux élevés pour la consommation humaine. Donc effectivement, on veut mettre le focus là-dessus dans un premier temps. Et c'est pour ça qu'on le cible sur la commande publique des villes, pour qu'elles l'excluent de leur restauration collective, par exemple.
Hi. This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.